au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
C'est-à-dire que dans un monde qui se défait, je continue à croire qu'il se défait, un peu trop lentement à mon gré, le geste d'écrire comme le reste, le geste de manier du fer ou de manier du bois ou d'assembler des pierres, sont des gestes vrais.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Roger Vaillant est mort en 1965 à l'âge de 58 ans, prématurément. Et l'on ne peut pas se départir à son propos d'une curiosité certes un peu vaine, puisque forcément inassouvie, mais néanmoins stimulante. On ne peut pas s'empêcher de se demander de quelle manière il aurait traversé et regardé mai 68, ce mai 68 dont il est beaucoup question ces jours-ci, comme vous l'avez sûrement noté. Je pose cette question parce que nous allons inscrire ce matin Roger Vaillant dans cette petite cohorte des écrivains que notre émission considère à intervalles irréguliers, des écrivains qui paraissent rejetés dans le purgatoire des lettres, mais qui méritent pourtant qu'on aille les y chercher afin d'éclairer leur actualité, souvent méconnue. Roger Vaillant, romancier, dramaturge, scénariste, journaliste, aurait retrouvé en mai 68 une complémentarité, une tension peut-être, entre deux aspirations qu'il n'a jamais cessé de tâcher de concilier, avec un succès inégal. D'un côté, la quête d'un élan collectif au service d'un rêve messianique, de l'autre, la volonté farouche d'une autonomie individuelle rétive à tous les embrigadements. Ce qui se traduisit dans son cas spécifique par une dialectique souvent heurtée entre les rigueurs du communisme et une liberté affichée et revendiquée de ses mœurs. Voilà bien un défi qui, à la réflexion, ne concerne sûrement pas seulement mai 68. J'ai demandé à Marie-Thérèse Échard, maître de conférence à l'Université de Lille 1, pour qui Roger Vaillant n'a pas de secret, de nous aider à en restituer la personnalité en nous montrant comment, de la richesse de ses contradictions, il a su nourrir une œuvre qui est importante.
Je crois que c'est un personnage extrêmement attachant. Il a essayé de se construire un personnage, de se donner une ligne de vie, me semble-t-il, qui à la fois du côté de la politique, il était pendant de longues années du Parti communiste, et à la fois d'un côté un peu grand seigneur dans un style 18e siècle. On a parlé à son propos de libertinage ou de choses ainsi, peut-être parce qu'il a consacré une étude à Laclos, on sait qu'il avait du goût pour ce monde des liaisons dangereuses et pour cette façon de vivre. Je crois que ce libertinage allait plus loin que le simple des évocations galantes, comme on le pense parfois, qu'il y avait chez lui une sorte de matérialisme à la manière du 18e siècle, à la manière de Diderot, si vous voulez, de ces philosophes-là, et en même temps le désir de brocher là-dessus un style de vie assez brillant, assez désinvolte, assez cynique. Comment pouvait-on concilier cette espèce de cynisme de grand seigneur avec les tâches de journaliste et les tâches de militant qu'il a voulu faire? C'est probablement été une des difficultés de son existence.
Marie-Thérèse Échard, bonjour.
Bonjour.
C'était un propos de Robert Canters, éminent critique littéraire, que j'extrais d'une émission de Georges Charbonnier sur France Culture en mai 1965. C'était déjà un hommage à Roger Vaillant. Est-ce que, d'entrée de jeu, Marie-Thérèse Échard, vous rejoignez cette idée d'une tension permanente entre ces deux tentations de Roger Vaillant, le destin individuel porté à l'extrême et la participation à une œuvre collective?
Oui, cette vue me paraît tout à fait juste. Elle est même centrale, au cœur de la vie et de toute l'œuvre de Vaillant. La vie souvent d'ailleurs se projetant dans l'œuvre de Vaillant. Ce sont vraiment les deux aspects qui aujourd'hui d'ailleurs ont encore un intérêt, puisque c'est cette conjonction de l'individu qui doit rester libre, et la recherche de l'individualité et du bonheur individuel est quelque chose qui a une importance à notre époque dans les esprits, et qui en même temps ne peut pas se replier totalement sur elle-même, au risque de perdre ce que Vaillant estime sa souveraineté. La souveraineté de l'homme, c'est aussi de ne pas rester en marge de la vie collective. C'est aussi de retrouver les autres et de rester souverain dans le groupe et dans un groupe qui fait l'histoire. Et c'est là la difficulté, la contradiction qu'a vécu toute sa vie Vaillant.
Il a toujours revendiqué la quête de bonheur au service de lui-même comme individu. Il dit quelque part, c'est l'appétit de bonheur qui prouve l'homme de cœur. Mais c'est aussi l'homme de cœur qui s'engage dans le collectif.
Oui, parce que l'homme de cœur qui s'engage, mais pour être heureux. Et il sera heureux dans son engagement. Ces personnages comme Rodrigue, par exemple, qui sera d'ailleurs avec ce nom très cornélien, hein, Rodrigue, il y a du cœur d'ailleurs, c'est dit clairement dans l'œuvre.
L'œuvre, c'est-à-dire quel livre?
Par exemple, dans Bon Pied, Bon Œil, Rodrigue a le goût du bonheur, parce que il aime les hommes, il est bon, il veut être heureux. Il se bat, un combat qui est des fois assez monotone, peu intéressant, mais il a ce goût du bonheur qui est un élan qu'il porte à combattre, à se battre. Et ce goût du bonheur, Vaillant va toujours essayer de le rechercher, même plus tard quand il sera vraiment en difficulté par rapport à cette contradiction qu'il croyait avoir résolue de l'individu dans l'histoire. Et il va essayer de le retrouver, et évidemment il ne le retrouvera pas tellement parce que toute sa vie avait été en fait réorientée vers cette fusion.
Nous allons voir tout ça, et c'est probablement cette opposition intime qui fait aussi sa force d'écrivain et qui peut-être a marqué son destin et qui explique pourquoi cet homme peut présenter à l'attention et à la critique tant de facettes différentes. Je reprends une citation d'une commentatrice, Elisabeth Le Gros-Chaput, qui dit « On a affirmé que c'était un libertin au regard froid, un moraliste, mais aussi un jeune homme seul, un écrivain exigeant, un militant communiste, un amateur du XVIIIe siècle, un cynique, un désenchanté, un passionné, un romantique, un classique, un surréaliste et surtout un styliste. » N'en jetez plus.
Oui, mais effectivement, il est tout ça. Et tout ça, il le sait qu'il était tout ça. Et que c'était une multiplicité qui aurait pu être une hétérogénéité. Et il va essayer de rassembler cette multiplicité, ce qui est quand même une hétérogénéité apparemment, au premier abord, pour en faire une unicité. Et il va en particulier essayer de retrouver cette unicité avec l'idée du souverain, qui sera un fil continu de ses histoires et de ce qu'il appellera ses différentes saisons.
Je suis maître de moi comme de l'univers.
Je suis maître de moi comme de l'univers et comme maître de l'univers. Voilà. Et je suis distancé par rapport aux événements, parce donc je peux les prendre avec hauteur, avec intelligence.
Toujours Corneille.
Voilà, toujours
Auguste,
Corneille.
Auguste de Sina. L'origine d'un écrivain est toujours intéressante, même s'il n'y a pas de déterminisme à considérer. Il est d'un milieu petit bourgeois.
Milieu petit bourgeois et avec deux branches qui sont différentes. Le père est plutôt un homme du monde de la républicain, laïque. La mère est issue d'une famille très petite bourgeoise, très très catholique, très conservatrice, qui d'ailleurs marquera beaucoup Vaillant. Mais Vaillant en a fait une histoire autre que certainement son histoire réelle. Vaillant était un enfant qui a été très chouchouté, adoré par les femmes qui l'entouraient, par sa mère, sa grand-mère Mémé Gâteau, par une employée de maison aussi. Et petit, c'était le petit dieu de la maison, l'homme couvert de femmes, dira le petit enfant couvert de femmes, dira sa sœur.
Ça, c'est une formule qui appartient à Adrien
Larichelle.
Oui,
et c'est Geneviève Vaillant qui emploie cette formule pour cet enfant. Et cet enfant, au lieu de le rendre vraiment heureux, rapidement, cela a été pour lui un handicap. Quand il est rentré à l'école, ça a été un drame parce qu'il est arrivé mignon, gravure de mode, charmant petit enfant, tout doux, tout frêle, et il a été affronté au petit galopin de la rue des Feuillantines, et ça s'est très mal passé. La maman l'a retiré immédiatement et pour lui apprendre à lire.
C'est là qu'il a cité Rimbaud, qui évidemment sera pour lui un astre absolu, et où il se reconnaît quand Rimbaud disait « Je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille ».
Voilà. Et très rapidement, il va ressentir un étouffement dans cette famille, trop aimante du côté de la mère. Et il va en faire même une sorte de roman familial, où la mère deviendra odieuse, deviendra castratrice. La figure de la mère va prendre au cours des années, chez Vaillant, une image assez monstrueuse. D'autant plus qu'au moment de l'adolescence, elle ne comprend pas l'évolution de son fils et elle rentre dans son intimité d'une façon effroyable, surveillant son lit, surveillant ses plaisirs solitaires.
Dont
il ne s'est jamais remis Vaillant, ce qu'on peut comprendre.
Et d'ailleurs, son personnage, qui est lui-même Marat dans le drôle de jeu, déclare « Je suis fils de bourgeois, je lutte contre ma classe de toutes mes forces, mais j'ai hérité de ses vices, j'aime son luxe, j'aime ses plaisirs ».
Oui, alors ça ne fait pas tellement référence à sa famille, parce que sa famille était au contraire un été noir au niveau des plaisirs.
Non, mais c'est justement pour aller contre elle.
C'est pour aller contre elle, oui, c'est pour aller contre elle. Ils estiment d'une classe bourgeoise où on aime effectivement le vice, le plaisir, le luxe, la vie facile.
Donc il faut se porter très vite à ce moment fondateur, qui est celui du lycée de Reims.
Oui.
Où va naître apparaître une bande, la naissance de la bande, comme aurait dit Jules Romain, une bande d'amis qui s'appelle les frères
Simpliste.
Mais les frères s'écrivent P-H-R-E-R-S.
Oui, voilà.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Oui, voilà. Et Simpliste, c'est pour valoriser le regard de l'enfant, sa fraîcheur, dépourvu de tabous, que pourchassera toute sa vie Vaillant.
C'est important, cette sorte de matrice initiale. Ça va devenir ensuite le grand jeu quand ils vont aller vers Paris ensemble.
C'est une équipe très étonnante parce qu'il y a avec lui Robert Gilbert Lecomte, il y a après René Daumal, puis ensuite Robert Mérat, toute une équipe qui est en tête de classe, qui sont extrêmement brillants. Entre parenthèses, Vaillant avait un père qui lui a donné une culture énorme, tout petit. Et on comprend dans son œuvre pourquoi régulièrement il cite Plutarque, que Xénophon, Corneille. Et son père est à l'origine aussi de cette passion.
Son père avait raté de quelques points polytechniques avant de devenir géomètre. Il avait probablement...
C'est un homme très, très cultivé.
Classique, il avait envie de transmettre à son fils.
Et qui a transmis à son fils l'amour du théâtre grec aussi.
Voilà. Mais pour restituer un peu cette période, la période de ce groupe fondateur... Une citation extraite des écrits intimes tardifs de Roger Vaillant, c'est un livre qui a été publié à titre posthume en 68, qui est lu ici, un extrait qui est lu par Simone Signoret dans « Soirée de Paris » de François Bott et Gérard Tavera sur France Culture le 11 février 1968. Il y a tout juste 50 ans.
Nous étions plus révoltés que révolutionnaires. Enfants de bourgeois, fréquentant les écrivains et les artistes, trouvant sans trop de difficultés l'argent nécessaire pour les souleries dans les boîtes de Montparnasse et les voyages d'amour dans les Maures ou en Corse, ignorant encore l'humiliation de vendre son temps contre un salaire, de faire un travail qu'on n'aime pas dans l'unique but de passer à la caisse, ce n'est que plus tard que j'ai été contraint de dire « bonjour patron ». J'en ai rougi la première fois. Pas assez engrené dans un métier pour nous sentir obligés de prendre part à la lutte, nous laissions l'URSS et le parti faire tout le boulot. Nous étions même plutôt trotskistes. Nous parlions de la révolution permanente. Nous étions des intellectuels en chômage, plus sensibles aux pathétiques de l'insurrection qu'à la révolution. Nous avions tous en commun de ne pouvoir prendre au sérieux les valeurs bourgeoises. Nous étions l'extrême pointe de l'une des contradictions que le régime développe en lui. Nous tenions pour dérisoire M. Herriot et la Joconde, Citroën et l'Académie, Boussicot et Foch. L'idée de faire une carrière nous faisait bien rigoler. Une carrière d'artiste encore davantage que les autres. J'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai injuriée. C'était l'ultime hommage que nous lui rendions. L'humour macabre, l'humour surréaliste. Ce que nous admirions, c'était R.D. appuyant contre sa tempe un revolver à barillet dont il savait que l'un des 8 cylindres, mais lequel, était chargé pour la vie. La mort à 1 contre 7, à 7 contre 1, sans pathétique, en rigolant, juste pour signifier que rien n'avait d'importance. Quand René Crevel se suicida, il ne laissa aucun message, sinon épinglé au veston du cadavre une mince feuille de papier où il avait écrit « René Crevel ».
J'ai assis la beauté sur mes genoux, on a reconnu une citation de Rimbaud, toujours essentiel pour le jeune Roger Vaillant. RD, c'est René Daumal, comme vous citiez tout à l'heure.
Oui, c'est René Daumal. Oui, parce que dans toute cette équipe des frères Simplice, très tôt, on s'est mis à la poésie. Vaillant écrivait beaucoup de poésie. Il ne s'est jamais estimé poète, mais il a écrit beaucoup de poésie jusque après-guerre. Il lisait ses poèmes devant ses amis. Mais bon, c'était, pour lui, c'était, il n'était pas un poète. Voilà, c'était autre chose. Mais les frères, alors je voudrais revenir à ce que dit Roger Vaillant, là, dans Les Écrits intimes. C'est une vue un peu tardive et un peu réécrite. Parce que, en fait, les frères Simplice, qui vont, en fait, donner le grand jeu ensuite, qui vont faire une revue qui s'appellera Le Grand Jeu, qui aura très peu de numéros, hein, 3 numéros.
C'est un nom probablement emprunté à l'activité des Britanniques du côté de l'Afghanistan.
Oui.
Vous n'y aviez pas songé?
Non, pas du tout.
Enfin, je vous apprends quelque chose sur Vaillant.
Voilà. Vaillant, c'est Vaillant qui a trouvé le terme de grand jeu. Déjà, vous voyez, le terme de jeu l'intéressait beaucoup. Ces jeunes gens décident un ultra-surréalisme. En fait, ils essayaient de retrouver leur moi transcendantal, mais dans la drogue. Ils ont tout de suite été très prisonniers de la drogue.
Déjà la drogue, on va la retrouver partout.
Oui. Tétrachlorure de carbone à l'époque, hein. Puis rapidement après l'héroïne, hein, surtout. L'opium, Roger Gilbert Lecomte en mourra d'ailleurs, hein. Il mourra en 43 de la drogue. Vaillant d'ailleurs sera séparé de lui en disant de toute manière il n'y a plus rien à faire. Pour lui, c'était devenu une sorte de déchet par rapport à ce qu'il espérait de la vie. Alors, ces frères Simplice, devenus les écrivains du grand jeu, ont essayé d'avoir des relations avec les surréalistes. Ils en ont eu un tout petit peu. C'est ce que dit Vaillant. Mais bon, les membres du grand jeu ne s'intéressaient absolument pas à la politique. À la différence des surréalistes. Et ils n'étaient pas trotskistes, comme le laisse entendre Vaillant à cette époque.
Reconstruction.
On ne trouve rien de politique. C'était leur mot d'ordre. Le mot d'ordre du grand jeu, c'était violer, étrangler. Nous défendons Sacco et Vanzetti, mais nous préférons Landru. Vous voyez, c'était vraiment encore presque une période dadaïsme, pourrait-on dire.
Sacco et Vanzetti, c'était les deux fameux anarchistes qui ont été condamnés à mort injustement, probablement, voilà. Aux États-Unis, alors que Landru, vraiment, apparaît comme étant quelque peu coupable.
Oui. Mais ça explique aussi pourquoi Breton se méfiait énormément, en fait, de ces jeunes gens qui craignaient qu'ils leur prennent la place, qu'ils sont des troublis, qui arrivent comme des troublions dans le milieu surréaliste.
Mais revenons à notre Roger Vaillant, si vous voulez bien. C'est le moment où il va devenir un journaliste et probablement ce métier aiguisera-t-il son œil, son regard sur son temps.
Alors, c'est Robert Desnos avec qui il était très ami qui l'introduit dans Paris Midi avant qu'il se mette à travailler aussi pour Paris Soir. Hein. Et Vaillant le fait parce qu'il faut qu'il gagne sa vie, parce qu'il veut se débarrasser d'un lien avec ses parents, il veut être indépendant, mais il méprise en soi, à ce moment-là, le journalisme. Et c'est pour lui une sorte de déchirement d'être obligé de faire du journalisme pour gagner sa vie. Et longtemps encore, je crois que dans les années 40, il écrit à son père « Le journalisme, c'est rien, ce n'est pas de l'écriture, c'est des petits billets comme ça que l'on fait très rapidement. » Mais pourtant, ça l'aiguise mon regard et je me mets à regarder les choses autrement. Vous voyez, c'était déjà l'ambiguïté. Mais cette question du journalisme va créer la grande rupture célèbre avec les surréalistes.
Et c'est là qu'on aboutit à ce procès au sens surréaliste du terme que Breton et les siens font à Roger Vaillant et à ses amis.
Oui, Breton avait déjà traité les amis du grand jeu de bande de zigotos. Hein. Il ne les aimait pas du tout et il a profité d'une grosse erreur monumentale de Vaillant qui dans le Paris Soir a trouvé le moyen de défendre le préfet Chiappe. Hein, très mal vu à l'époque, surtout par toute la gauche et par les surréalistes.
L'homme du 6 février 34.
Et du 6 février 34. Donc, Vaillant est condamné, malgré l'intervention de Raymond de Seigne, qui trouve ça anormal, qu'on traite un jeune qui doit gagner sa vie de cette façon, stalinienne, dira-t-il.
Hein. Et déjà
Vaillant, Staline. Vaillant donc est exclu, en fait, de fait de ce mouvement surréaliste, mais sera aussi exclu de l'équipe du grand jeu, car ses amis ne veulent pas rompre avec le surréalisme. Et ce sera une douleur extrême de Vaillant qui, cette fois-ci, perd le groupe, se retrouve vraiment un homme seul.
Ce temps-là est aussi celui où il commence de définir ce qui sera pour lui le libertinage, qui est une manière de marquer aussi cette distance par rapport à la politique. Il en a parlé lui-même dans l'archive que je vais vous faire entendre. C'est un extrait de l'actualité du passé de Jacques Florent et Micheline Caron sur Paris Inter, ancêtre de France Inter, le 17 octobre 1962.
Roger Vaillant, qu'est-ce que c'est qu'un libertin ?
Au premier sens, c'est un homme qui ne s'assujettit ni aux croyances, ni aux pratiques de la religion. Nous libertins s'accordent très bien entre eux en général à mépriser et rejeter la sainte profession de la vie chrétienne. C'est un homme qui lutte pour la liberté de penser.
Mais je crois que ce sens a évolué et que finalement le libertinage est devenu un jeu de société.
C'est cela, mais le sens a évolué au cours du 16e, 17e et 18e siècle. La liberté de penser, c'est la liberté dans tous les sens. Au début, les libertins étaient considérés comme de dangereux agitateurs. Et quelquefois, on les rouait, c'est-à-dire qu'on les soumettait au supplice de la roue sur la place publique. Au courant du XVIIIe siècle, la lutte pour la liberté s'est transposée dans d'autres domaines, dans le domaine politique en particulier. Les libertins, ce sont des sentimentaux, d'une façon très naïve en général et toute gentille. Et ils ne pensent qu'à se marier. Quand ils sont mariés, ils divorcent, mais c'est pour se remarier aussitôt. À l'heure actuelle, je crois... Oui, mais il n'a plus de sens, c'est mon libertinage. Alors,
qu'est-ce que c'est que le vice pour vous, alors ?
C'est perdre le contrôle de soi-même. Je crois qu'on peut tout faire, à condition d'agir et non pas d'être agi. C'est-à-dire, par exemple, prenons des exemples tout gentils. L'alcool, c'est une chose très agréable que de passer une soirée à boire jusqu'à l'ivresse, même jusqu'à l'ivresse la plus totale. Mais à partir du moment où c'est l'alcool qui vous domine, c'est-à-dire... qu'on boit sans arrêt, sans plus y prendre plaisir. Que c'est plus
sans garder le regard froid du vrai libertin.
Alors là, ça devient un vice.
Mais qu'est-ce que c'est que le vice en 1962, en règle générale ?
Eh bien, ce serait, alors, si nous poussons cette idée, ce serait aimer être esclave, accepter d'être esclave.
Ici, il me semble, Marie-Thérèse Deschartes, que Roger Vaillant reconnaît qu'on peut continuer d'être esclave tout en disant que le libertinage est passé à plus de sens. On est en 1962. Il a déjà évoqué l'évolution du libertinage. C'est vrai qu'au XVIIe siècle, c'est d'abord une distance par rapport à la religion. Il y a l'édition dans la Pléiade des libertins du XVIIe siècle qui est tout à fait éclairante à cet égard. Mais en son temps, cela veut dire autre chose et il nous dit que ça n'a plus de sens non plus.
Oui, je crois que là, Vaillant quand même confond liberté de mœurs et ce qu'il lui appelait le libertinage. Ça me surprend d'ailleurs, parce que pour lui, le libertinage était quand même quelque chose qui était un jeu extrêmement construit. C'est pas la liberté de mœurs, c'est un choix de devenir souverain face à un autre être théoriquement souverain. Et il prenait l'exemple de Laclos et de Sade, qui organise selon une stratégie la chasse à l'autre.
On peut rappeler que Valmont, qu'il évoque, est le personnage principal des liaisons dangereuses de Chaudière de Laclos.
Valmont part à la chasse. Et Vaillant expliquera ça dans un de ses essais sur le libertinage, justement. Ils partent à la chasse, Sade part à la chasse aussi, mais... À l'époque du XVIIIe siècle, cela pouvait apparaître comme quelque chose de provocant qui bousculait les mœurs de l'époque quand même et la morale de l'époque. Mais ces grands seigneurs de Valmont ou Sade sont des gens qui prennent l'autre comme objet quand ils partent à la chasse. Et il y a tout le problème que là ne pose pas vraiment Vaillant, c'est de celui qui chasse, qui prend l'autre comme objet, et que devient l'autre dans ce cas-là ? L'autre ne peut être que subi. Ne peut que subir. Donc il était affronté à une contradiction qu'il a surmontée d'une façon particulière en disant « L'autre doit aussi être un souverain. Mais aujourd'hui, donc à son tour, il chassera l'autre. Mais aujourd'hui, qui peut être souverain comme ça ?» Il dit « Donc il faut se projeter dans un autre monde où les femmes, les bergères seront des reines, seront des souveraines à l'égal de l'homme. On pourra alors proposer ce jeu du libertinage, ce jeu de la liberté. » Il emploie aussi, il parle aussi aujourd'hui un peu, mon avis qui est aujourd'hui, qui pose problème aujourd'hui, il dit « Dans le bordel, on a cette liberté du libertinage des deux côtés. Parce que comme on paye la femme, eh bien la femme est libre. On sait maintenant quand même, avec tous les débats qu'on a aujourd'hui, que c'est quelque chose d'un point de vue très masculin et très dépassé.
On aurait pu s'en apercevoir dès ce moment-là, à vrai dire.
Et aujourd'hui, on a fait litière de tout ça, bien qu'on ait encore vu, il n'y a pas très longtemps, si vous vous souvenez, des hommes faire une pétition sur quand on a parlé justement de pénaliser la prostitution.
Comme vous voyez, l'actualité n'est pas absente, même si Vaillant nous dit dans cet extrait que tout cela est dépassé.
Oui, il me dit que c'est dépassé, et en même temps, c'est curieux même qu'il dise qu'il est dépassé, parce que dans toute son œuvre, jusqu'à la fin, il vante ce type de libertinage.
Il y a ce libertinage, il y a aussi ces relations qui étaient évoquées tout à l'heure avec la drogue, avec le tabac. Oui. Il s'était forcé à plusieurs reprises de dominer cette tentation ou cette pratique pour retrouver précisément sa liberté, une série de cures de désintoxication, etc. C'est une dialectique qui est intéressante, qui peut d'ailleurs concerner certains de nos contemporains.
Oui, Vaillant passe sa vie à essayer de se désintoxiquer. Dans les années 30, il est abominablement, Lombroso le dit, abominablement dépendant de la drogue, de l'héroïne, avec sa femme André Blavette, qui est surnommée Boule. Il s'en libère. Il fait une première cure de désintoxication parce qu'il se sent dépossédé de lui-même à un moment donné. Il lira hier dans Drôle de jeu, « Je devenais un rond de cuir de l'opium ». Rond de cuir de l'opium. Et quand il veut rentrer dans la résistance, c'est pareil en 42, redésintoxication. Après, en 47, il ressombre à nouveau plus ou moins dans la drogue. Alors ça, on ne le dit pas souvent, mais redésintoxication encore. Et ce n'est qu'après que la drogue est abandonnée au profit de l'alcool, mais d'une ivrognerie vraiment monumentale.
De trois paquets de cigarettes par jour.
L'alcool, le whisky était quelque chose qu'il prenait dès le matin. Alors quand il travaillait, il s'obligeait à ne pas boire dans la journée.
Entre 7h et midi pour écrire.
Et il ne pouvait boire son petit verre quand tout le travail était fini.
Vous appelez ça un petit verre, vous ?
Oui, un petit verre, 5, 6, 7 verres de whisky. Alors, et tout ça a été contrôlé par sa femme Elisabeth, parce qu'il faut aussi reconnaître à la femme Elisabeth un rôle extrêmement important dans la vie de Vaillant, parce que je pense que Vaillant n'aurait pas pu écrire comme il a écrit si elle n'avait pas été là pour le soutenir en permanence, pour l'aider, pour... Bon, c'était son esclave d'une certaine manière. Jacques-Francis Rolland, qui a été un des proches de Vaillant, dira toujours une femme esclave. Elle serait créée une autre histoire, Elisabeth Vaillant. Elle dit « J'étais souveraine, j'avais choisi. Je faisais mon bonheur de son égoïsme », elle disa. Mais elle était à ses petits soins quand même. Elle se levait à 5h du matin pour aller casser la glace aux Alimes.
Aux Alimes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est replié dans une vie provinciale.
Provinciale et ascétique.
Du côté de l'Ain.
C'est de l'Ain, dans l'Ain, oui.
Alors vous parliez de drôle de jeu, cela nous amène, Marie-Thérèse Échard, à cette période essentielle pour cet homme-là, pour Roger Vaillant, comme pour beaucoup d'autres contemporains, c'est-à-dire la période de l'occupation et de la résistance. Il va se définir comme résistant après un certain temps d'adaptation, et c'est cela qui va l'amener progressivement vers le communisme. Racontez-nous cela.
Vaillant était devenu un journaliste assez important, qui fréquentait beaucoup de journalistes, et romanciers, comme des gens comme Jean Prévost, un certain nombre de personnes, Louis-Martin Chauffier. Et quand la guerre est perdue, le groupe de Prouvot,
Jean Prouvot,
est rapatrié à Lyon. Il rapatrie ses journalistes vont pour la plupart à Lyon. Ils sont payés sans rien faire, donc la vie est assez facile pour Vaillant à ce moment-là. Et c'est là que Vaillant rencontre beaucoup d'autres personnes. Bon, Jean Prouvot, Beaufré vient les voir, Louis-Martin Chauffier.
Jean Prévost aussi.
Alors, il y a Jean Prouvot qui dirige le groupe de presse, qui rapatrie son groupe de presse à Lyon. Et il y a l'écrivain et journaliste Jean Prévost.
Qui va être un grand résistant.
Voilà, qui va être un grand résistant, qui est au Café Antoinette où se retrouvent tous ces gens-là. Donc, rapidement, dans ce milieu-là, Vaillant retrouve quand même une sorte de famille intellectuelle. Il est extrêmement bien, ce qui ne l'empêche pas de continuer à se droguer et mener une certaine vie libertine. Mais petit à petit, à leur contact, je pense qu'il va évoluer. Parce qu'au début, Vaillant est assez douteux. Hein. Il dit qu'il ne voit pas rien de mal dans le régime de Vichy, qu'après tout, ça peut très bien se passer. Il envisage même, dans un écrit à son père, de collaborer avec les Allemands.
Oui, il y a une lettre que vous avez exhumée.
Oui.
C'est toujours l'inconvénient des correspondances privées.
Voilà, qu'on connaît maintenant. Mais qu'en fait, la situation étant assez confuse, il ne vaut mieux pas prendre position tout de suite. Enfin, tout ça n'est pas très clair, mais il faut dire qu'avant, Vaillant ne s'occupait absolument pas de politique et ne comprenait rien, en dehors de son émotion pour le Front populaire. Bon, la politique de l'époque, pourtant qui était quand même... Il y a eu quand même des gros événements, tous ces Hitler qui prend petit à petit l'Autriche.
Nous l'avons observé. Il arrive finalement dans la résistance. Il faut s'attarder là un instant, puisque c'est une des matrices de son œuvre, en particulier avec ce très beau livre qui s'appelle Drôle de jeu. Je vais vous en faire entendre un morceau qui est extrait de l'émission Bon voyage de Jacques Florent sur Paris Inter, le 11 mai 1959.
Savez-vous que je trouve tout cela ridicule ?
Qu'est-ce que vous trouvez ridicule ?
Tout ça, l'attentat contre le train, les mots de passe, et puis nous tous, le curé, ces jeunes gens, vous, moi, quand je suis avec vous. Enfin, toute cette histoire qui n'en finit pas et qui ne mène à rien.
Toute cette histoire, je ne vois pas où vous voulez en venir.
C'est bien simple. Je ne me sentirais pas le cœur léger si je venais d'envoyer le pauvre garçon qui joue à la guerre avec de vrais fusils faire sauter un train. Un train dans lequel des hommes que vous n'avez jamais vus et dont, somme toute, vous ne savez rien, sont en train de dormir paisiblement. Vous ne pensez pas que ces jeunes gens peuvent être tués, là, tout près de nous, dans 5 minutes, pendant que nous serons en train de bavarder au clair de lune? Avez-vous déjà vu le cadavre d'un jeune homme avec un tout petit trou dans la tête? Moi, je l'ai vu. C'est bête, la mort d'un jeune homme! Impardonnablement bête. On n'a pas le droit de jouer avec la mort.
Halte là!
La Manche est plus large que la Seine.
Qu'est-ce que vous faites dans la prairie à cette heure-ci?
Ça doit ressembler à ce que vous y faites vous-même.
Où allez-vous?
Par là.
Enfin, puisque vous avez le mot de passe, je dois vous laisser aller. Mais vous pouvez faire de mauvaises rencontres.
Vous nous protégerez.
Drôle d'endroit pour faire du place à bon ami.
Qu'est-ce que je vous disais? En voilà encore qui joue? La police de la prairie. S'ils étaient à cheval, ce serait tout à fait du Fenimore Cooper. Pauvre gosse. Si votre fichue expédition tourne mal, ils auront tout à l'heure toute la garnison de Mâcon sur le dos. Ils ne pourront pas crier pouce, dire que ça compte pour du beurre, que ce n'est plus du jeu. Ce sacré jeu-là, quand on l'a déclenché, on ne peut plus l'arrêter.
Joli. Tout ce que vous venez de dire si joliment ne prouve qu'une chose. C'est qu'à l'origine, la résistance n'a répondu à aucun besoin profond, n'a été qu'un jeu pour vous. Et sans doute pour pas mal de petits bourgeois et bourgeoises de France. Quand ça devient dangereux, vous criez « pousse ». Mais je voudrais bien savoir ce qui, à vos yeux, n'est pas un jeu.
La vie. La vie toute simple.
Je comprends pas.
Vous trouverez sur le site le nom des comédiens que nous avons entendus. Alors, expliquez-nous cela, resituez-nous ce passage, si vous le voulez bien, Marie-Thérèse Échard.
Ce passage qui vient d'être lu se situe vers la fin du livre, d'ailleurs, au moment où Roger Vaillant doit suivre une expédition dangereuse du Maquis et des résistants de la région de l'Ain qui doivent faire sauter des trains par où doivent passer des dignitaires allemands. Et il emmène Annie, ses réfugiés, Annie qui est la fiancée d'un jeune communiste, Frédéric, ses réfugiés à cet endroit et il rencontre Marat. Et elle est coupée psychologiquement de toute la résistance à laquelle, à un moment donné, elle a vu plus ou moins participer. Et elle veut essayer de vivre, comme elle le dit elle-même, vivre une vie individuelle. J'ai droit au bonheur, je ne veux pas participer à l'histoire, parce que l'histoire, c'est le risque de mort. Donc ça ne m'intéresse pas, c'est quelque chose qui est hors de ma portée, de mes ambitions et de mes goûts. Et on a face à ça, face à un Marat qui, lui, ne fait jamais de leçon de morale, mais qui s'est engagé justement, parce qu'il pensait qu'à un moment donné, il y va même de la souveraineté de l'homme, de choisir la voie qu'il a plus juste, celle de la loi qui est finalement la loi de la liberté, dans un contexte politique difficile.
Et collectif.
De la résistance.
Et collectif.
Ouais, et collectif. Donc, sans faire de leçon de morale, il laisse Annie parler, exprimer ce besoin de bonheur de l'individu, et ce besoin de vivre, et Il lui dit, vous n'êtes qu'une petite bourgeoise, vous prenez la résistance pour un jeu, vous n'avez pas compris que c'est la vie de l'humanité et de nous-mêmes qui est en question. Mais il le dit sans leçon de morale, en lui faisant comprendre qu'elle se place dans une situation qui n'est pas la bonne.
Peut-être est-ce aussi parce que lui-même est un peu tenté parfois de rejoindre ce que pense Annie.
Oui, parce qu'il y a chez Marat, évidemment toujours, ce goût du bonheur qu'il manifeste même pendant la résistance. Il va après séduire Annie, parce qu'elle lui plaît moyennement, mais c'est un moment de bonheur qu'il va pouvoir passer avec elle. Il va continuer sa vie de plaisir, aller dans les bordels autant qu'il le peut, tout en résistant. Vaillant est un résistant d'un type un peu particulier.
Le vrai nom de Marat dans le livre, c'est en fait Lamballe.
C'est Lamballe.
Donc, il rejoint à la fois la tradition des grands seigneurs. Madame de Lamballe, c'est la confidente de Marie-Antoinette, dont la tête avait été promenée au bout d'une pique, précisément par les amis de Marat.
Précisément par les Marat. Mais Marat, Marat est un personnage très important dans la vie de Vaillant. Il n'est pas anodin que son personnage s'appelle Marat. Déjà, dans Un homme du peuple sous la Révolution, qu'il avait écrit avec un journaliste, il avait évoqué cette figure de Marat. Hein, un homme du peuple sous la Révolution, c'est un hommage à Drouet, celui qui a giflé le roi, et en giflant le roi, a mis à mort le sacré.
Vous parlez du maître de poste de Sainte-Ménéhould au moment de la fuite à Varennes, qui a reconnu d'ailleurs le roi d'après une pièce de monnaie qu'il avait dans la main.
Voilà.
Donc, le voilà dans la résistance, il voit qu'il émerge, notre Roger Vaillant, qui émerge de la résistance entouré d'une certaine aura et rencontrant la tentation du Parti communiste, du coup.
Oui. Alors, déjà, Marat, à la fin du roman, Marat fréquente beaucoup de communistes parce que dans son réseau gaulliste, Roger Vaillant a été réellement un grand résistant, résistant dans un réseau gaulliste avec de grosses responsabilités. Il a à un moment donné dirigé 4 réseaux en France et il était très proche de Daniel Cordier, Caracalla, dans le roman. Il a admiré énormément Daniel Cordier. L'adjoint, quand même le secrétaire de Jean Moulin, qui a joué un rôle très important.
Qui vient de donner au Monde, au quotidien Le Monde, une très belle interview tout récemment, je recommande à nos auditeurs.
Oui.
Et on voit constamment, en même temps, notre Vaillant garder son compte à soi, son personnage Marat dit « Je suis prêt à tout sacrifier pour la cause que je défends, même ma vie, mais je me refuse au plus petit sacrifice si j'ai l'impression qu'on me demande de prouver ma bonne volonté. Ça me dégoûte comme d'aller à confesse, c'est du même ordre que les pénitences, le cilice des moines, tout l'arsenal ordurier du masochisme chrétien. » Fin de citation.
Oui. Alors, Vaillant, en fait, dans tout le drôle de jeu, c'est le personnage, c'est ça qui a beaucoup plu à pas mal de jeunes, en particulier à la sortie du livre dans les années 45, c'est ce goût de l'indépendance, ce goût du plaisir et une certaine désinvolture qui le rend justement souverain, puisqu'il est capable de prendre une distance même avec les actes les plus difficiles, les plus compliqués.
C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ce livre peut retrouver aujourd'hui, parmi la jeunesse actuelle, ce peut être un effet de cette émission, qui sait, un public précisément de la jeune génération.
Oui, d'autant plus qu'il y a chez Marat toujours une intelligence, mais une intelligence qui traite les choses avec une certaine désinvolture extrêmement séduisante. Hein. Parce qu'il n'est pas justement dans le « j'obéis aux ordres, je défends une voix ». Il est toujours avec un recul, analysant les gens, prenant du plaisir à simplement des personnes humaines, comme une des résistantes, Chloé par exemple, capable de suivre son bon plaisir, de manger très bien dans les restaurants du marché noir, ce qui était dépenser beaucoup d'argent, d'aller dans des bons hôtels éventuellement. Et c'est une philosophie de la vie qui est assez en contradiction avec ce qu'ont vécu beaucoup de résistants, en particulier dans la résistance communiste ou proche des communistes.
Et qui d'ailleurs va être également peut-être en contradiction avec un certain puritanisme de la vie du communisme dans les années d'après la résistance, au moment où, et il faut que nous y venions maintenant, Marie-Thérèse Échard, au moment où Roger Vaillant tourne autour du PCF, a envie d'être recruté, finalement le rejoint avant de le quitter. Après, progressivement, après la, la période de 1956 de la Hongrie, quand les soviétiques vont écraser la révolte hongroise. C'est un moment décisif dans cette histoire que nous évoquons ce matin et dont nous essayons, je parle de Roger Vaillant, de marquer la possible actualité entre liberté et engagement collectif.
Alors, Vaillant, dès la fin de Drôle de jeu, le personnage de Marat dit qu'il n'a pas le style communiste, mais qu'il travaille avec les communistes, qu'il adhère à la doctrine communiste. Mais je n'ai pas le style, j'ai le vice de ma classe, donc il est pour l'instant en marge. Et c'est petit à petit qu'il va faire le cheminement de passer de la marge à l'engagement. Déjà dans Bon Pied Bon Oeil, il écrit, dit-il, dans une perspective communiste, mais il dit « je ne sais pas, finalement, à qui j'ai écrit, parce que personne ne peut rentrer vraiment dans mon roman. »
C'est quelle date, Bon Pied Bon Oeil ?
En 1950, bon, après Les Mauvais Coups, qui est tout à fait autre chose, qui parle de sa vie privée.
Il est en train de rejoindre le Parti communiste.
Il est en train de rejoindre le Parti communiste, mais il ne s'en sent pas encore. Il est très proche de lui, mais il ne se sent pas encore prêt à s'engager complètement dans ce Parti communiste. Et l'engagement se fera petit à petit, en 52 en particulier, où son œuvre est de plus en plus communisante. Il dit que, par exemple, Bon Pied Bon Oeil, c'est une œuvre écrite bourgeoise encore, roman bourgeois, mais écrite dans une perspective communiste quand même. Roman qui ne peut pas trouver son public parce que les non-communistes ne le comprendront pas, et les communistes ne le comprendront pas non plus parce qu'il ne s'agit pas des masses communistes. Voilà. En 1952, Roger Vaillant écrit alors un ouvrage qui se veut très communiste, c'est Le Colonel Forster.
Une pièce de théâtre. Colonel Forster plaidera coupable. Si on est dans l'ambiance de la guerre de Corée.
Voilà, c'est l'ambiance de la Corée. Il y a les bons et les méchants, les résistants à la Corée et les méchants américains. C'est très, très manichéen. Mais à l'époque, l'ambiance était manichéenne aussi, l'ambiance politique. Cela fait beaucoup de bruit. La pièce a été interdite au premier soir. Donc cela fait un énorme scandale. Là-dessus, se greffe la manifestation organisée par le Parti communiste contre la venue du général Ridgway à Paris. Une manifestation qui sera extrêmement violente, où il y aura des arrestations. Duclos sera arrêté dans l'affaire du complot des pigeons.
Jacques Duclos est un des leaders du Parti communiste,
sera arrêté dans ce qu'on aura appelé le complot des pigeons.
Parce qu'il y avait des pigeons dans son coffre, mais n'entrons pas dans les détails.
Oui, on ne rentre pas dans les détails. Et Vaillant va envoyer son livre avec une adresse à Jacques Duclos en lui demandant de bien accepter son adhésion au Parti communiste. Évidemment, Jacques Duclos est fort content et lui fait une lettre très aimable pour accepter cette décision. Et Vaillant n'est pas un homme des demi-mesures.
Il entre dans le Parti communiste vraiment comme en religion.
On pourrait le dire. Si on le lui avait dit à l'époque, il n'aurait pas supporté. Lui qui a horreur du sacré. Mais il y met toute sa vie. À tel point qu'on a rarement vu un intellectuel communiste même changer complètement radicalement de vie, abandonner Paris, abandonner ses vices, entre guillemets, et ses plaisirs, et aller s'installer au fin fond de l'Ain, dans un petit hameau qui s'appelle Les Alimes, sans confort, où il va se mettre à écrire, avec sa femme évidemment, Elisabeth, qui va l'aider, et mener une vie d'une dureté telle que même les militants de la région ne comprenaient pas pourquoi il vivait de cette façon aussi dure, aussi ascétique.
D'ailleurs, Yves Courrière, qui est le meilleur des biographes de Roger Vaillant, il en a donné une histoire très, très fouillée, écrit qu'il avait à l'époque, au fond, le sentiment d'expier sa jeunesse bourgeoise.
On peut le penser. Moi, je ne suis pas hostile à cette idée. On peut le penser. On peut le penser parce que il veut changer tellement radicalement sa vie qu'il y a certainement autre chose derrière, qui le motive, pas seulement l'engagement, le fait d'enlever une tache de cette enfance petite, de cette jeunesse petite bourgeoise, de ses vices. Et ses vices, évidemment, il les contrôlera. Il ne pourra pas les empêcher complètement, mais il les contrôlera.
C'est l'époque, en 1956, où il s'est satisfait de la formule d'Émile Henriot, le critique, qui écrivait dans Le Monde qu'il était un aristocrate d'extrême-gauche. Il répond à ce moment-là, voilà une formule qui m'enchante. Voilà. Mais je n'y vois pas la contradiction que M. Henriot semble avoir voulu exprimer. Je me bats coude à coude avec les meilleurs de mon époque. Coude à coude avec et solitude.
Effectivement, il milite dans le Parti communiste à la base, réellement.
Je fais partie de l'armée des hommes de cœur, de ceux qui font la preuve partout dans le monde. Ils savent mourir sans espérer de récompense. Je suis du parti des meilleurs. Je suis un aristocrate.
Voilà,
bon résumé, non ?
Oui, parce que dans son engagement, et on le voit très bien dans le roman qu'il écrit à l'époque, Beaumasque, dans son engagement, dans la littérature, les communistes, pas les communistes comme bloc, mais certains communistes comme individus, sont parmi les meilleurs. Parce que ce sont eux qui sont les héros de notre époque. Et on retrouve sa propre histoire cornélienne, le goût de Corneille, le goût de l'héroïsme, le goût du devoir. Son héroïne, Pierrette Aimable, est la parfaite héroïne de, finalement, on ne peut pas dire de l'homme bolchévique, bon, de la femme bolchévique, pourrions-nous dire. C'est l'héroïne de l'époque, Pierre Aimable. Elle est issue du peuple et c'est une femme qui a l'énergie, le courage, la hauteur de vue pour être vraiment une héroïne cornélienne.
Puisque effectivement Corneille pour lui est fondamental, il en dit, c'est à la fois la référence littéraire qui permet de s'engager dans la résistance, tel un héros cornélien, un personnage de fiction. Corneille, c'est aussi celui qui permet de définir la valeur étalon du courage, la valeur de l'honneur et de l'héroïsme, et Vaillant, celui qui a du cœur.
Voilà, et c'est ce qui se passe, Rodrigue avait du cœur. Les hommes que côtoie Vaillant, ils estiment aussi qu'ils ont du cœur, parce que le modèle de Pierrette Aimable est une femme qui a été leur amie, et qu'il estimait avoir une trempe extraordinaire. La trempe, c'est le mot important qui revient chez Vaillant, la trempe. Ce sont des gens qui sont les héros de notre temps.
Et d'ailleurs, il ne faut pas avoir l'oreille très fine pour s'apercevoir qu'aujourd'hui encore, on est parfois en quête d'héroïsme. Ce qui s'est passé en France à l'occasion de la mort du colonel Beltrane a fait ressurgir toute une réflexion sur cet héroïsme qui finalement montre que cette période n'est pas tellement et complètement dépassée. La quête du héros née de la résistance.
Tous les hommes ont besoin d'une image modèle, de l'image héroïque qui aide aussi à vivre et qui donne de l'énergie dans le combat aussi.
Oui, alors cette entrée en communisme, comme en religion, même s'il n'aurait pas aimé le mot, va aboutir au drame ultérieur, lorsque, à l'occasion du 20e congrès, du rapport Khrouchtchev, on va découvrir les crimes de Staline, en attendant qu'en 1956, les bolcheviks écrasent les révoltés de Hongrie, 1956. Et ça a été une sortie très très difficile. À cet égard, on a le goût de faire entendre la chanson qui exprime exactement cela. Une chanson de Jean Ferrat de 1980 qui s'appelle précisément « Le bilan ». Il se peut que Roger Vaillant, à l'époque, ait tiré un bilan qui n'était pas forcément joyeux.
Ah, ils nous en ont fait avaler des couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, les staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous. Vous aviez combattu partout la bête immonde, des brigades d'Espagne à celles des maquis. Votre jeunesse était l'histoire de ce monde. Vous aviez non Kostov, ou London, ou Slansky. Au nom de l'idéal qui vous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. Ah, ils nous en ont fait applaudir des injures, des complots déjoués, des dénonciations, des traîtres démasqués, des procès sans bavure, des bagnes mérités, des justes pendaisons. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui. C'est un autre avenir qu'il faut qu'on réinvente, sans idole ou modèle, pas à pas, humblement, sans vérité tracée, sans lendemain qui chante, un bonheur inventé définitivement. Un avenir naissant d'un peu moins de souffrance, avec nos yeux ouverts en grand sur le réel. Un avenir conduit par notre vigilance envers tous les pouvoirs de la terre et du ciel. Au nom de l'idéal qui nous faisait combattre et qui nous pousse encore à nous battre aujourd'hui.
Le bilan de Jean Ferrat, Marie-Thérèse Échard. Est-ce que vous avez le sentiment que cette chanson peut exprimer ce qu'a ressenti Vaillant, bien qu'il se soit assez largement tu. Mais enfin, il avait décroché le portrait de Staline au-dessus de son bureau. Il l'avait remplacé par une reproduction de la joueuse de flûte qui orne le trône de Vénus du musée des Thermes à Rome. C'est la beauté et la grâce à la place de l'homme de fer. Et il a écrit sur son tableau noir « Il n'y a plus rien au cœur de ma vie ».
Oui, la chanson de Jean Ferrat est assez intéressante par rapport à Vaillant. Jamais Vaillant ne l'aurait exprimé comme ça. D'ailleurs, il n'a jamais rien exprimé au niveau politique de ce qu'il a fait, de ce qui a provoqué chez lui ce désespoir. Je pense que ça correspond intimement à ce qu'il a reçu, la manière dont il a reçu lui-même tout ce qu'il a appris. Et ce désespoir est lié à ce côté monstrueux de ce qu'il découvre et auquel il n'avait jamais pensé, parce que pour lui, c'était la fabrication de l'homme nouveau, l'Union soviétique. Et donc là, il y a tout d'un coup un choc si violent sur lequel il ne s'expliquera pas. Il expliquera son choc, son désespoir, son fait de se sentir définitivement étranger à l'humanité, mais il ne dira pas dans le détail pourquoi. Et il se taira. Il estimera d'ailleurs que se taire par rapport à ce qu'il a vécu est une sorte d'honnêteté d'homme qui ne doit pas se renier, devenir un de ces vieux grognards de la politique par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il a été. C'était la dignité de Roger Vaillant. Mais Roger Vaillant, quand même, au moment où, justement, vous parlez de ce décrochage du portrait de Staline, il écrit aussi sur un tableau noir « Je n'ai plus rien au cœur de ma vie ». Et plus tard, il dira « Cette saison, quand il découpera sa vie en saisons pour essayer d'y voir plus clair dans la fête, cette saison, la fin de ma saison politique, je suis resté comme mort et c'était la mort la plus longue de ma vie. Et je me suis détaché de l'humanité tout entière à ce moment-là. Et il m'a fallu après trouver un moyen de repartir, d'aller à, parce que son obsession c'est toujours ne pas rester dans l'immobilité. À un moment, il s'est senti, dit-il, comme dans une immobilité de pierre. Pour essayer de repartir, il faut aller à.
Pour les élans d'aujourd'hui, on est content que sa vie ne soit pas achevée à ce moment-là, mais un peu plus tard, après qu'il a retrouvé la littérature. Il a été libéré, en fait, par la littérature, et c'est le dernier moment de sa vie. Et par la littérature, il revient d'ailleurs à la politique.
Oui, Vaillant sombre dans un grand désespoir à cette époque, n'arrive plus à écrire, et il va arriver à redémarrer un roman uniquement par le biais d'une histoire individuelle, le biais d'une histoire de libertinage, qui sera celle de la fête.
Toujours.
Un écrivain qui, au fur et à mesure de son histoire de libertinage, écrit son histoire de libertinage. Et comme ça, il arrive à se retrouver souverain par la fête ce qu'il appelle une fête, c'est-à-dire la chasse à la femme, encore une fois, en passant sous le fait que cette femme n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que lui. Il a conquis cette femme, il a obtenu cette fête, c'est-à-dire cette nuit avec cette femme comme il le souhaitait, et tout d'un coup il retrouve une sorte de puissance, la puissance du souverain, et il va pouvoir à nouveau être souverain puisqu'il va réécrire cette histoire. Mais c'est un monde totalement différent de celui du passé.
C'est le temps du prix Goncourt qui va lui donner à la fin une sorte d'éclat, d'écho et
oui,
de public plus large.
Alors dans la fête, il y a beaucoup de rappels de toute son histoire passée. Il fait un peu le point. Il disait, l'écrivain est comme une balance qui doit faire le point. Mais dans la loi, c'est encore autre chose. Il y a le prix Goncourt. Dans la loi, c'est un autre monde. Ça se passe en Italie. Et il retrouve ce qui l'intéresse beaucoup, c'est le jeu de force entre les gens à partir d'un jeu qui s'appelle la loi, où c'est à qui celui, on doit gagner sur l'autre, faire subir la loi à quelqu'un et empêcher d'être subi, de subir.
Plus la notion de désintéressement, de distance qu'incarne un peu son personnage dans César.
Oui, alors dans César, qu'il dit être un homme de qualité, il est un homme de qualité dans un monde où il n'y a plus de possibilité d'agir sur ce monde. Ce monde de la loi est un monde immobile. Beaucoup d'Italiens ont estimé que c'était un monde faux, qui ne correspondait pas du tout aux luttes qu'il y avait en Italie à ce moment-là. Mais au fond, ça ne nous intéresse pas, parce que Vaillant saisit un moment de cet univers italien qui correspond à son univers mental. Le monde est immobile pour lui, la mer est immobile, les désoccupés sont immobiles contre les murs. Don César est immobile, il passe sa vie à s'occuper seulement des fillettes qu'il peut mettre dans son lit. Et il n'a plus de position dans l'histoire et il reste donc à vivre avec une sorte de souveraineté et surtout un désintéressement pour arriver à vivre.
Et en même temps, il retrouve une certaine forme assez classique du roman. Il est notable oui. qu'il emporte le prix Goncourt par 6 voix contre 4 à Michel Butor, qui représente le nouveau roman, la modification.
Et c'est... le plus drôle, c'est que les lettres françaises se sont battues pour Butor.
Lettres françaises, qui est l'hebdomadaire du Parti communiste.
Oui,
j'ai là, d'ailleurs, j'ai sous les yeux, d'ailleurs, un numéro bien ultérieur, un numéro de 2005, avec un très beau portrait de Vaillant, avec son visage d'aigle, très émacié, dû au grand talent d'Ernest Pignon-Ernest.
Oui. Oui, parce que dans les nouvelles lettres françaises, qui continuent d'ailleurs à exister, on a fait des numéros, moi j'ai participé aussi à des numéros où Vaillant avait une place importante pour quand même rappeler qui était Vaillant et la valeur de son écriture, la valeur de ses témoignages, ce qu'il a représenté.
Et pour terminer, alors il faut montrer comment il revient à la politique. Après tout, c'est important pour aujourd'hui de savoir que son désespoir n'a pas été définitif. Voilà un extrait de son dernier article. C'est une archive extraite des Écrits intimes de Roger Vaillant, une émission de François Botte et Gérard Tavera. Les Écrits intimes de Roger Vaillant sur France Culture le 31 octobre 1969. La lecture est de Pierre Delbon.
Se conduire en politique, c'est agir au lieu d'être agi. C'est faire l'histoire, faire la politique au lieu d'être fait, d'être refait par elle. C'est une manière de se comporter. Une action qui se décompose en une série bien déterminée d'actions. C'est mener un combat, une série de combats, faire une guerre, sa propre guerre, avec des buts de guerre, des perspectives proches et lointaines, une stratégie, une tactique. Voilà qui paraît bien le dernier souci aujourd'hui de nos contemporains. Qu'est-ce que vous faites, les philosophes, les professeurs, les écrivains, moi-même, les intellectuels, comme l'on dit? Les praticiens ne manquent pas, ce monde en est plein. Mais les penseurs politiques, en attendant que revienne le temps de l'action, des actions politiques, une bonne, belle, grande utopie, comme quand nous pensions en 1945 que l'homme nouveau serait créé dans les 10 années qui allaient suivre, ce ne serait peut-être déjà pas si mal.
C'est une résurgence. Marie-Thérèse Échard, à quoi on est assez accoutumé de période en période, le regret qu'il n'y ait plus d'utopie, que les intellectuels se désintéressent excessivement de la politique, etc., etc. Ça n'est jamais fini, cette histoire. C'est cyclique.
Oui, c'est une histoire qui nous parle aujourd'hui, hein, puisque depuis un certain nombre d'années, on a vu beaucoup de monde, une jeunesse... se tourner vers le bonheur individuel, les voyages, le plaisir de la consommation, et on a vu se déliter les ambitions politiques. Aujourd'hui, en particulier, on a un panorama où la vie politique est assez éclatée. On ne voit pas comme à l'époque de Vaillant, on ne voit pas quelle utopie peut prendre une place importante et diriger une vue politique, diriger un combat politique.
C'est une affaire à suivre.
Tout est une affaire à suivre, hein. Alors, certains ont leurs idées là-dessus, mais quand même, on a ce genre de problème. Et Vaillant, à ce moment-là, change complètement de comportement. Tout d'un coup, il ne peut plus continuer, comme il a écrit, à être désintéressé. Il lui faut quelque chose. Mais quelque chose quoi? Il ne le définit pas, il est bien incapable de le définir. Mais il pousse à réfléchir à cette utopie et réfléchir à la vie qu'il faut absolument mener en lien avec la politique et avec sa propre histoire.
Eh bien, nous allons terminer cette conversation, Marie-Thérèse Échard, sur l'expression de cette aspiration, de cette espérance, un peu floue encore chez Roger Vaillant, mais dont nous pouvons peut-être avoir encore l'usage. La bibliographie de Roger Vaillant est dominée par la biographie qu'en a offerte Yves Courrière, Roger Vaillant ou un libertin au regard froid, chez Plomb, en 1991. À quoi il faut ajouter le livre petit mais utile de François Botte, Les saisons de Roger Vaillant, paru chez Grasset. Et puis le recueil d'articles de Roger Vaillant, Sacré métier, Roger Vaillant journaliste, Sacré métier point d'interrogation, 1928-1965. C'est une anthologie due à Marie-Noël Rio, parue aux éditions Le Temps des Cerises en 2015. Quant à vous, Marie-Thérèse Échard, vous avez présenté Les écrits intimes d'Elsa Triolet chez Stock en 1998. et puis contribuer, c'est très précieux, à l'édition de la poésie complète d'Aragon dans la bibliothèque de la Pléiade. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guérou, réalisée par Milena Hellig, avec Inès De Bruyne à la prise de son et Isabelle Fort-Rendu pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.